Écoute. Écoute.
Bon, tout d'abord, merci beaucoup pour votre temps. Je voudrais commencer pour vous demander, en relation avec les événements qui sont, se sont roulés en Irak par rapport à l'assassinat du général Soleimani. Premièrement, pourquoi Trump a décidé de poser l'offensive maintenant? Et quel plan subtil et qu'est-ce que sont l'intention à réaliser de Trump?
Le général Soleimani était une cible depuis longtemps. Il était localisé, suivi en permanence par les forces américaines. Mais jusqu'ici, il avait été décidé de ne pas le tuer parce que ça aurait certainement entraîné des réactions trop fortes. Si Trump a franchi cette limite, c'est parce qu'il y a eu un mort américain et surtout que l'ambassade américaine était encerclée par des milices irakiennes et que le symbole de l'encerclement de l'ambassade américaine est trop fort aux États-Unis, notamment depuis le précédent de 1979 et la prise d'otages des 52 diplomates américains pendant 444 jours. Et donc Trump, qui n'avait pas réagi à la destruction d'infrastructures pétrolières saoudiennes, ni à la destruction d'un drone américain au-dessus du Golfe, eh bien là a décidé de réagir très fortement parce qu'il rentre en campagne électorale et qu'il a voulu montrer à ses électeurs qu'il était capable de faire ce que ses prédécesseurs n'avaient pas fait.
Et quel est dans ce cas l'avenir de l'accord nucléaire et quelle est la position que peuvent et doivent maintenir à l'Union européenne à ce rapport?
On peut dire que bizarrement, l'équation n'a pas beaucoup changé. Les Américains et Trump est toujours hostile à l'accord nucléaire, il ne va pas y revenir maintenant. Les Européens le défendent toujours et malgré les demandes de Trump de sortir de l'accord nucléaire, tous les Européens, y compris Boris Johnson, pourtant très proche de Trump, a continué à dire que c'est un accord qu'il fallait préserver. Et les Iraniens, pour l'instant, de moins en moins en respectent les règles, mais ils n'ont pas totalement aboli. Mais ce qui ne change pas, c'est que les Européens n'ont pas grand-chose à offrir aux Iraniens pour qu'ils continuent de respecter l'accord nucléaire. Les Iraniens étaient rentrés dans cet accord pour obtenir la levée des sanctions. Or, celles-ci ont été renforcées. Donc même si les Iraniens et les Européens continuent à dire qu'ils sont attachés à l'accord, il y a de moins en moins d'incitation pour l'Iran à le respecter. Et puis on peut dire que le fait d'avoir abattu, fût-ce par erreur, un avion ukrainien au-dessus du ciel iranien, renforce un peu la pression parce que si un pays n'est pas capable de maîtriser ses forces antiaériennes, eh bien il vaut mieux qu'il n'ait pas l'arme nucléaire.
Oui, et finalement, comment voyez-vous l'évolution de la situation dans toute la région, particulièrement en Irak?
Alors, il y a plusieurs phénomènes différents. En Irak, on voit qu'il y a une montée de la contestation, de l'atteinte aux souverainetés de l'Irak, parce que ce sont des dirigeants auxquels on reproche la corruption, que l'Irak est potentiellement très riche grâce au pétrole, mais que, en fait, depuis 2003, la reconstruction n'a pas réellement eu lieu et que la population irakienne en est la première victime. Jusqu'ici, il y avait une sorte un peu de contestation et de la mainmise iranienne et de la mainmise américaine sur l'Irak. Aujourd'hui, avec sur le fait d'avoir tué le général Soleimani sur le sol irakien en complète violation de la souveraineté irakienne, on peut dire que l'anti-américanisme est beaucoup plus fort et on peut se demander jusqu'à quand les Américains pourront rester en Irak. Ils ont là une base militaire, ils ont une ambassade, mais sur le reste du pays, ils ne sont pas du tout présents. Trump a demandé à ce que tous les Américains soient rapatriés et donc là, ils sont vraiment confinés dans des bases militaires ultra protégées sans pouvoir réellement sortir. Et il n'est pas certain que cette situation soit durable sur le long terme pour les Américains. Il est probable que l'assassinat de General Soleimani marque le début de la fin de la présence américaine en Irak.
Merci beaucoup.
Moi, j'avais des questions concernant la Libye. D'abord, comment expliquer le nombre si important de forces étrangères impliquées dans le conflit depuis 2011 et croissant au cours des années précédentes?
Parce que la Libye est un pays extrêmement important sur le plan pétrolier et qu'il y a un vide et que ce vide stratégique a attiré de nombreux acteurs qui ont chacun leur propre agenda, souvent opposés aux autres acteurs. Il n'y a pas du tout d'entente entre les différents acteurs qui interviennent en Libye. Et donc, chacun veut essayer d'exercer son influence, avec quand même généralement deux camps tout à fait distincts. Mais effectivement, on voit qu'il y a de plus en plus d'acteurs étrangers en Libye et que cela ne facilite pas la recherche d'une solution et que l'on peut même dire que le soutien de nombreux acteurs étrangers, dont d'ailleurs la France, au général Haftar, est venu, lorsque le général Haftar a voulu de nouveau attaquer, est venu ruiner la solution plus consensuelle, plus interne que l'envoyé spécial de l'ONU, Hassan Salamé, mettait en œuvre. Et donc on peut dire que ces interventions étrangères sont plutôt un frein au fait de trouver une solution plutôt qu'un moyen de trouver une solution.
D'accord, merci. Que pensez-vous de l'engagement turc aux côtés du gouvernement de Tripoli vis-à-vis des autres acteurs de la région, justement, dans ce jeu de puissance
La Turquie a une diplomatie un peu curieuse, puisqu'il y a quelques années, la Turquie avait pour principe de n'avoir de problème avec personne. Mmh. Aujourd'hui, ils ont des problèmes avec tout le monde. Ils sont de plus en plus isolés, et en même temps, Erdogan continue à avancer ses pions, malgré sa relation compliquée avec les pays de l'OTAN, malgré sa relation compliquée avec la Russie. Eh bien, il est toujours un interlocuteur incontournable, tant pour l'OTAN que pour la Russie. Et donc, en Libye, il a décidé d'avancer ses pions également, notamment pour des raisons pétrolières, et aussi en se disant que, finalement, il se fera respecter et il sera un interlocuteur pour les autres acteurs qui sont en Libye, et qu'il a certainement estimé qu'il n'y avait aucune raison qu'il soit le seul acteur international régional à ne pas être actif dans le chaos libyen.
Merci. Et selon vous, quelles seraient les issues possibles ou les voies de sortie de ce chaos ?
Alors, il y a un petit espoir, puisque ce week-end, il y a un accord signé à Moscou entre les deux camps opposés en Libye. C'est une trêve. Combien de temps durera-t-elle ? Est-elle durable ? Ça, ce n'est pas certain. Mais ce que l'on voit, c'est que cette trêve a été signée à Moscou. Donc, une fois encore, la Russie apparaît comme l'acteur le plus puissant au Proche-Orient, le seul acteur qui parle à tout le monde, aussi bien à l'Iran qu'à l'Arabie Saoudite, aussi bien à Israël qu'au Hamas. Et donc, et c'est chez lui, c'est à Moscou que il y a effectivement un accord de trêve qui est trouvé, même si elle est peut-être pas durable. Et donc, on voit qu'avec des moyens limités quand même, parce que l'économie russe n'est pas très puissante, les moyens militaires russes ne sont pas très importants, mais la diplomatie russe arrive avec des cartes limitées, à avoir un jeu très maîtrisé dans toute la région, et c'est certainement la puissance finalement la plus active et la plus performante au Proche-Orient, pour ne pas parler de ce qu'elle fait en Afrique de façon de plus en plus, là aussi, active.
Merci. Donc moi, je vais vous poser des questions sur la question des Ouïghours en Chine. Donc, comment la communauté internationale réagit-elle face à la situation des Ouïghours en Chine, et quel rôle peut-elle avoir pour la dénoncer ou l'enrayer, selon vous ?
Alors là, on peut dire que la communauté internationale, ou supposait-elle, réagit avec un très grand silence sur la situation des Ouïghours en Chine, et que, y compris les pays musulmans, finalement, sont d'une discrétion extrêmement remarquable, parce qu'ils ne veulent pas prendre frontalement Pékin, du fait des relations que les uns et les autres ont avec Pékin, et du fait de la certitude que Pékin réagit très vivement dès que ce qu'elle estime être sa souveraineté est mise en cause. Et donc, dans la mesure où il n'y a pas de consensus, chacun essaye de se dire « je ne peux pas réagir individuellement, sinon c'est moi qui vais prendre toutes les sanctions de la Chine ». Et donc, il n'y a pas de concertation, et on peut dire que les Ouïghours sont abandonnés à eux-mêmes.
Pourquoi et comment la lutte contre le terrorisme est devenue, selon vous, un alibi idéal pour céder à toutes les dérives ou les atteintes à certains droits fondamentaux
Il n'y a pas qu'en Chine, c'est également le cas un peu partout, et c'est vrai que au nom de la lutte contre le terrorisme, une fois encore, il ne s'agit pas de nier la menace terroriste, on voit très bien qu'elle est de plus en plus instrumentalisée par des pouvoirs, et par des pouvoirs autoritaires, mais également par des pouvoirs démocratiques, pour rogner sur les libertés publiques, de façon bien sûr intense dans les régimes autoritaires, de façon plus soft dans les régimes démocratiques. Mais le fait de faire de la lutte contre le terrorisme le principal agenda sécuritaire des pays a changé effectivement le climat, et sert un peu d'alibi, et les régimes autoritaires ou contestés et contestables se servent de cela, parce que si on vient critiquer la répression qu'ils mettent en place, ils vont dire immédiatement: est-ce que vous êtes contre la lutte contre le terrorisme ? Et tout le monde se tait, et c'est devenu pour les régimes répressifs le viatique pour accentuer leur répression, et non seulement contre le terrorisme, mais contre des demandes démocratiques. Et on peut se demander, au-delà de l'aspect moral, si cette façon de réagir est efficace. On peut se demander, en effet, si la répression comme seule réponse n'est pas quelque chose qui, au contraire, ne va pas lutter contre le terrorisme, mais qui, au contraire, peut l'alimenter.
Et ma dernière question porte sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous pensez que les réseaux sociaux soient devenus une nouvelle manière de lancer les alertes, notamment face à ces sujets-là, contrairement aux médias plus traditionnels, malgré le risque de fake news et cette dérive qui existe ?
Oui, enfin, les fake news, il y en a aussi dans les médias mainstream. C'est pas, on pourrait faire une liste, soit d'erreurs, soit de compromissions, soit de copinage. Et donc, a priori, moi, je suis contre cette division qui serait que les médias mainstream disent la vérité et que les réseaux sociaux disent des mensonges. Il y a des mensonges, il y a des fake news dans les réseaux sociaux, mais il y en a aussi parfois dans les médias mainstream, et parfois même les réseaux sociaux corrigent les médias, et on voit apparaître sur les réseaux sociaux des corrections ou des critiques des médias centraux qui n'existeraient pas bien sûr entre les médias, parce que les médias ont peu tendance à se critiquer eux-mêmes parce qu'ils font partie du même monde. Et donc on voit effectivement, alors les médias centraux et les médias mainstream aiment bien effectivement critiquer les réseaux sociaux, mais très souvent c'est la seule façon de pouvoir s'exprimer et de porter une conversation, même s'il faut reconnaître que dans le cas spécifique des Ouïghours, la presse mainstream s'occupe de cela, la répression des Ouïghours est très documentée dans les médias mainstream, mais il est vrai que sur bien des sujets, ce sont les réseaux sociaux qui peuvent servir de moyen de lanceur d'alerte, parce que bah, chaque citoyen peut se saisir de cela, peut alerter, et s'il est convaincant, il n'a pas besoin de créer un journal, il n'a pas besoin, les médias centraux sont même de plus en plus dans les mains de grandes fortunes, pour ne pas dire d'oligarques. Eh bien, un simple citoyen peut servir de lanceur d'alerte sur les réseaux sociaux.
Merci beaucoup.